Bonjour, aujourd'hui Arcole vous propose d'entendre un témoignage de Jean-Luc de Carbussia sur l'esprit dans lequel Jean Ferré, il y a 20 ans, concevait les libres journaux de la radio créée par lui. Cet enregistrement a été réalisé le 26 juin 2007 dans le contexte d'une réunion d'information d'Arcole dont nous installerons prochainement la deuxième partie. Elle était consacrée aux nouveaux moyens de libre expression sur la toile. En attendant, je passe la parole à Jean-Luc de Carbussia qui parlera de l'esprit de Jean Ferré, et le président d'Arcole expliquera aussi quelques aspects du contentieux qu'il oppose à la gestion de fait de la radio de Jean Ferré. Et en fin d'enregistrement, vous pourrez entendre aussi quelques propos de notre ami Olivier Pichon, directeur de Monde et Vie, membre du bureau de notre association.
Créer Radio Courtoisie. Et nous étions tous extrêmement gonflés et apparemment nous étions innocents, nous étions naïfs. Car Jean, qui avait été foutu à la porte de Radio Solidarité, comme moi-même et Serge de Bekech, nous pensions que nous pouvions continuer, mais continuer sans moyens, car c'était effectivement la condition de la liberté. Alors, c'était l'un des défis que Jean Ferré était en train de relever, et nous y croyons. C'est un défi qui était mûrement réfléchi et qui n'était pas du tout léger, puisque il avait étudié la question et il savait que une radio qui se voulait libre et qui à ce titre-là pouvait drainer d'immenses ressources d'écoute, de quelques ressources financières de la part des auditeurs et de dévouement des patrons d'émissions et d'intérêt et d'estime des auteurs, des écrivains, des artistes, des universitaires. Une radio libre ne pouvait émettre que sans publicité. C'était, mais on nous disait, bon, la publicité, c'est absolument nécessaire. Vous êtes des rêveurs. Eh bien oui, nous avons rêvé et ça a duré 20 ans. Un petit peu moins de 20 ans, malheureusement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, nous nous sommes jetés à l'eau. Mais il faut bien préciser une chose, c'est que de Radio Courtoisie, il n'y a qu'un seul fondateur. Il n'y en a pas deux. C'est Jean Ferré. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un fondateur? J'ai regardé dans le dictionnaire. Un fondateur, c'est celui qui prend l'initiative de créer et d'organiser une œuvre. Radio Courtoisie est une création de Jean Ferret. C'est une création dont on va parler, si vous voulez bien, quant à la forme et au fond. Et puis, qui a organisé Radio Courtoisie? C'est Jean Ferret, c'est personne d'autre. Il m'avait demandé de me joindre à lui en tant que Lumière 101, radio créée plusieurs années plus tôt, au début des radios libres, les radios sur la FM, qui ne sont pas toutes libres, évidemment. Et moi, c'était le dimanche. Mais c'est Jean Ferret qui faisait tout, qui avait tout conçu. Donc, il n'y a qu'un seul créateur, et ceux qui se disent co-fondateurs n'ont pas consulté le dictionnaire. Alors, donc, qu'avait-il fait, Jean, pour nous entraîner? Il avait tout simplement, et à notre suite, beaucoup d'invités et pas mal d'adhérents. Ce qu'il a fait, c'est que il avait étudié le meilleur moyen d'intéresser les auditeurs qui n'étaient pas des auditeurs de rock, pour qui le son entre dans une oreille et ressort par l'autre, mais des gens qui écoutent. Et cette ferveur d'écoute, comme Jacqueline de Romille a qualifié à propos de Radio Courtoisie et de Lumière 100, cette ferveur d'écoute, comment a-t-elle été suscitée? Pas simplement en demandant à des patrons d'émissions, se dépensant corps et âme avec des invités de qualité. C'est en donnant un cadre dans lequel nous nous sommes engouffrés, plus ou moins tous. Il s'agissait de faire des émissions de 3 heures ou d'une heure et demie. Alors on nous disait, attention, sans publicité, alors là, vous n'y arriverez pas. Donc sans publicité, sans interruption musicale, on disait, s'il n'y a pas d'interruption musicale, c'est-à-dire de quoi souffler, de quoi respirer, de quoi se détendre, comme tout le monde le faisait, eh bien, l'écoute disparaîtra. Pas du tout. Jean savait, car il en avait vu l'expérience, que pendant 3 heures d'affilée, sans aucune interruption, la tension ne se relâchait pas. Pourquoi est-ce qu'elle ne se relâchait pas? Parce que il demandait aux patrons d'émission de suivre un certain nombre de règles. Et si vous voulez bien, je vais les lire, car ces règles qu'il m'avait confiées et à propos desquels il me passait régulièrement des savons parce que je ne les respectais pas comme il le fallait, car je crois que j'ai une des personnes que Jean Ferret a le plus engueulé, mais qui châtie bien, aime bien. Alors, voici ces règles que, en principe, tous les patrons d'émission devraient respecter. Et si je vous raconte tout ça, c'est parce que, en contrepoint, il serait intéressant que vous pensiez, que nous pensions à ce que est devenue cette radio, qui est devenue la radio de l'anti-courtoisie. Premièrement, la composition. Parce que Jean était un grand expert en matière d'art et particulièrement de Watteau. Il avait fait un admirable une publication de plusieurs volumes sur Watteau qui feront autorité, je crois, pour toujours. Et il avait été particulièrement intéressé par les problèmes de la composition picturale. Alors, je vais interrompre une seconde pour quelque chose d'important, c'est les commandes. Conversation Médane, c'est dans le meilleur des cas, parce que maintenant, c'est même plus cela, particulièrement le lundi. La composition, disait Jean, c'est-à-dire l'action de composer, doit conduire à former un tout par l'assemblage, la combinaison de plusieurs parties. Ce tout est une œuvre, ce à quoi ne conduit jamais une conversation qui n'est qu'un mélange. Alors voilà le style de Radio Courtoisie. C'est une œuvre, à tel point que le patron d'émission qui arrive, qui croit savoir tout ce qui va être dit, qui croit savoir tout à propos du thème qui a été choisi, des livres, des auteurs qu'il reçoit, ressort, lorsqu'il respecte ses recommandations de Jean Ferret, ressort enrichi et dynamisé, car il a créé une œuvre fugitive, mais une création. Alors, maintenant, ce n'est pas des œuvres. Je pense au lundi, je ne passe pas aux autres émissions, puisque le lundi, c'est une émission phare. Alors, à tout seigneur, tout honneur. Donc, lundi, ce n'est pas une œuvre, c'est un instrument. C'est un instrument de pouvoir, de satisfaction. Ce qui n'était pas le cas de Jean. Jean éprouvait sa satisfaction, son plaisir, trouvait son honneur dans la réalisation d'une œuvre. Alors il continue. On peut assimiler la composition d'une œuvre radiophonique à la composition d'une œuvre picturale. Les actions préalables élémentaires en sont. Et c'est un des meilleurs spécialistes de la critique picturale qui parle, en l'occurrence, et qui applique à la radio, pour la première fois, des règles qui devraient un jour être connues dans le monde entier. Définition des personnages, c'est-à-dire identité, portrait et rôle de chacun. On commence par dire, parce qu'on croit qu'on sait tout, à partir du moment où on sait qui est qui, on s'en fout, la plupart des auditeurs sont censés être au courant. S'ils ne le sont pas, ce sont des cons. Eh bien non. Il est très important de définir, de dire quels sont les personnages. Ce qu'on oublie souvent du reste. Deuxièmement, la définition du thème. C'est un thème qui est traité. Et à partir de la définition du thème qui est l'initiative, le choix du patron d'émission, tout s'ordonne. Oh, ça ne va pas dans tous les sens. À partir du moment où on parle, alors je vais pas anticiper, pour l'œuvre radiophonique dont le support n'est pas le plan mais le temps, il faut prévoir la logique, c'est-à-dire la nécessité de toujours aller du connu vers l'inconnu. C'est pour ça que Jean partait toujours d'un fait connu, connu de tous. Et à partir de là, à partir de ce thème, et à partir de cet exemple, tout se déroulait naturellement, et le rôle du patron d'émission était de rassembler les propos des invités dans la perspective du thème qui a été proposé. L'auditeur, à ce moment-là, s'enrichit. Car l'approfondissement du thème lui permet d'en savoir beaucoup plus long que tout ce qui est dit, tout ce qui a été dit sur toutes les antennes dans les jours présents. Ce thème, du reste, peut très bien ne pas être forcément d'actualité, mais les grands sujets sont toujours d'actualité. Alors, deuxièmement, disait Jean, discipline du patron d'émission. Alors là, il nous traitait un peu en petit garçon, et moi je trouve ça très bien, parce que plus on apprend, plus on rajeunit. Premièrement, phrase courte, continuellement maîtrisée. Tu veux pas te fatiguer, hein?
Non.
Phrase courte. Continuons à maîtriser parce que une phrase courte est une phrase radiophonique. S'il y a beaucoup d'incidences, de phrases qui n'en finissent pas, la tension peut se relâcher et surtout, on peut perdre le fil. Donc la phrase courte est une phrase radiophonique. C'est plutôt, il admirait Voltaire, c'est plutôt les phrases à la Voltaire et pas à la Chateaubriand. Deuxièmement, ne pas ouvrir la bouche avant d'avoir conçu la première phrase. Ça a l'air évident, mais c'est pas si facile que ça, et croyez-moi. Troisièmement, ne jamais couper la parole à l'invité sans raison grave. Alors, ça c'est très difficile. Quand on a une idée, tout patron d'émission qu'on soit, qu'on n'est pas tout à fait d'accord avec le patron d'émission, ou qu'on pense que, avec l'invité qui parle, bon, on se dit, je vais faire du bien à cette émission, je vais enrichir cette émission, je me dois de l'interrompre et de lui dire que. Eh bien, c'est une erreur. C'est une erreur parce que on coupe le fil de la pensée de l'interlocuteur et on ne lui permet pas d'aller jusqu'au bout. Alors, bon, vous pensez tous peut-être aux émissions du lundi. C'est évidemment pas ça du tout. On pourrait dire que moi, j'en suis très reconnaissant au patron d'émission du lundi, c'est qu'il nous offre un contre-exemple extrêmement utile.
Seul qui indique le sud, c'est toujours utile.
Oui. Alors, ensuite, comprendre tout ce que dit l'invité et ne jamais lui poser une question qui sorte de la logique du sujet. Ça, c'est la rigueur. Il ne faut pas tout d'un coup qu'on ait une idée brillante, comme patron d'émission, qu'on se dise, au fond, oui, on pourrait parler de ça aussi. Pas du tout. Il faut approfondir le sujet. Et c'est pour ça que même l'invité, parfois, apprend sur son propre sujet, sur le sujet auquel il a travaillé pendant des années. Ça nous est arrivé de voir à plusieurs reprises des invités, parfois même vexés, apprendre des choses, alors qu'ils étaient venus pour tout nous expliquer. Parce que d'autres invités participaient à l'émission et qu'un ensemble de personnes peuvent finalement, l'union faisant la force et la créativité, en l'occurrence, ils pouvaient très bien avoir oublié un certain nombre de choses ou aller pas assez profondément dans une question. Ensuite, ne jamais oublier que, sauf circonstances exceptionnelles, c'est l'invité qui est venu pour accoucher, tandis que le patron d'émission doit demeurer dans le rôle d'accoucheur. C'est ce qui ressort de tout cela, et ce qui prouve que le patron d'émission n'a pas un rôle secondaire. Il est essentiel, puisque c'est l'accoucheur. Sans l'accoucheur, sans la sage-femme, puisqu'il y a des patronnes d'émission, mais pas forcément flatteur du reste, eh bien, la naissance est hasardeuse. Et pour ça, beaucoup d'invités des invités de la plus grande qualité venaient aux émissions de Jean Ferret et d'un certain nombre d'autres patrons d'émissions parce qu'ils aimaient venir à la radio. Ils prenaient sur leur temps, alors qu'ils étaient tous très, ils sont tous très pris, ils offraient leur temps parce qu'ils se sentaient vraiment sur le Montparnasse et non pas dans des ravins. Alors, la règle absolue termine Jean Ferret, ne jamais rebondir sur un mot, comme on le fait hélas dans la conversation courante, mondaine ou de café du commerce. Alors, si je vous ai lu ceci, c'est pour que on puisse mesurer ce qu'est la courtoisie. Parce que ces conditions-là sont nécessaires à une émission de Radio Courtoisie. Car la courtoisie, c'est évidemment une grande tradition de la chevalerie, mais c'est aussi une réalité qui se peut se perdre actuellement, évidemment, mais qui n'en est pas moins très vivante et précieuse. Et dans le mot de courtoisie, encore toujours dans le dictionnaire, il y a le mot de finesse. Et une raffinerie, car nous étions un peu une raffinerie, certains patrons d'émission le sont encore à Radio Courtoisie, une raffinerie, en fait, son rôle, c'est de rendre consommable le matériel qui est proposé. Et les émissions de Jean étaient assimilées facilement par le maximum d'auditeurs. Et ça, c'est de la courtoisie. Il ne s'agit pas simplement de se mettre à la portée de tout le monde, mais il s'agit d'aider chacun par un effort intellectuel, un effort de rigueur à donner un produit consommable, mais non pas dans la vulgarisation, dans le mauvais sens du terme, mais dans une selon une méthode qui est celle des bouilleurs de cru, parce qu'on était devenus un peu des bouilleurs de cru, nous étions devenus, surtout dès le début, un peu des sortes de clandestins. Ceux de l'époque se souviennent des violentes attaques dont on a été l'objet et qui avaient servi du reste au président Mitran à blackbouler, à supprimer, à tuer la CNCL et en changer la composition et en faire ce qu'est maintenant le CSA, qui est censé, d'après le président de la République, être plus sensible aux arguments des politiques et du pouvoir et de l'État. Donc, nous étions un peu des bouilleurs de cru, et finalement, tous ces défis de Jean Ferret ont été tenus. Et il a réussi à réunir autour de nous, grâce à cet esprit qui maintenant est trahi par celui qui s'est emparé de cette radio, à des fins personnelles, grâce à cet esprit, il a réussi à réunir des personnes qui ne s'aimaient pas forcément, des frères ennemis, qui, lorsqu'une place était chaude, s'y asseyait alors qu'il n'aurait pas pu souvent même parler avec le patron d'émission précédent. J'exagère un peu dans certains cas, mais finalement, nous avons tous, malgré nos différences, nous avons tous été réunis par cet esprit. Alors maintenant, le choix des patrons d'émission qui est fait, il n'est pas fait en fonction de cette composition, parce que Jean Ferret a composé non seulement son plateau quand il choisissait ses invités, mais il a composé le corps des patrons d'émission qui étaient tous complémentaires. Maintenant, le choix, comment est-il fait? Le choix du patron de fête, de l'usurpateur de cette radio. Comment est-il fait, ce choix? Il est fait en fonction de sa politique personnelle. Il se sert comme le coucou du nid dans lequel il s'est logé. Il se sert de cette radio prestigieuse, donc on pourrait dire la sage-femme, dont il a complètement oublié le nom de son fondateur, puisqu'il n'apparaît pas aux émissions de lundi. Et pour rendre des services, se faire des obligés et neutraliser tel ou tel journal ou tel média. C'est pas bête, bien entendu, il n'est pas idiot, mais c'est personnel. Alors que Jean Ferret n'a jamais pensé à ça. Jean était un très fin calculateur. Mais tous ses calculs, tous sont même... On peut peut-être même parler de machiavélisme. Il le mettait au service de la radio, au service de son enfant. Et nous étions tous, bien entendu, consentants à cette incroyable situation juridique, et nous y arrivons, dans laquelle nous étions. Viens t'asseoir là, on envoie ton manteau. Nous étions, bon, moi je m'en foutais complètement de qui était membre du conseil d'administration. Toi aussi, t'en foutais, hein. On s'en foutait tous.
Oui. Et moi donc.
Hein, on s'en foutait parce que qui faisait le boulot? Qui passait ses jours et ses nuits à discuter avec les juges d'instruction, avec la CNCL puis le CSA, avec les, avec la TDF, avec un tas d'emmerdeurs, avec les patrons d'émission, qui passait son temps et sa vie à faire le boulot, et de temps en temps à faire ce qu'il fallait pour faire les fins de mois, non pas en ayant des dessous de table, mais en relançant par la parole, essentiellement, les auditeurs. C'était Jean Ferret, il faisait le boulot. Alors Jean, qui était un fin matou, son origine paysanne, tout en étant issu par, c'est une des branches cadettes d'héritiers du grand Ferret, mais ils avaient donc des terres et j'ai vu comment ça fonctionnait, les terres, et comment ils faisaient travailler les gens là-bas. C'était très très bien fait, c'était un chef-d'œuvre de réussite et d'équilibre. Alors Jean avait trouvé le moyen qu'on ne l'emmerdât pas, car il ne pouvait pas être membre du conseil d'administration, encore moins président du CDRS, qui était l'association détentrice de l'autorisation d'émettre. Il ne pouvait pas parce qu'il fallait bien qu'il vive, qu'il vivasse. Il fallait bien qu'il... Il faut faire la concordance, non? Ah ben, il s'en foutait. Ah non, pas qu'il vécu, ça c'est pas gentil, oui, il a vécu. Oui. Alors, il fallait donc qu'il puisse vivre, puisqu'il consacrait toute sa vie et qu'il n'avait pas d'argent personnel. Et tout l'argent qu'il gagnait, il le dépensait en invitant ses amis à des somptueux repas, jusqu'au moment où il s'est mis à lancer Radio Courtoisie, et à ce moment-là, il n'a plus dîné, plus jamais dîné de sa vie. Sinon, un petit rien chez lui. Il avait fait donc une croix sur la bonne chair. Alors Jean était bien obligé d'avoir une association pour obtenir les autorisations, pour faire les déclarations, etc. Alors, cette association a été créée en 85 avec 6 membres. Alors, il cherchait un président. Il fallait trouver un président qui ait une certaine stature, mais qui soit suffisamment intelligent pour laisser tout le boulot, toute la responsabilité et tous les emmerdes à Jean. Alors j'avais fini par demander à un ami de famille de plusieurs générations, un Corse évidemment, François Pitti-Ferrandi de diriger, tu t'en souviens, Jean-Joseph, de diriger, d'être président de l'association. Et il y a eu donc plusieurs, il y en a eu donc cinq autres, dont j'ai la joie de saluer ici le meilleur d'entre eux, qui est Jean-Joseph Richard. Et sous le contrôle de qui je parle maintenant? Alors, ces membres actifs, ils ne se sont jamais réunis. Ils ne se sont jamais réunis parce que si l'association avait pris des formes normales, légales, si on avait respecté les statuts, Jean, tôt ou tard, aurait trouvé en face de lui une structure ayant le droit, peut-être même le devoir, de formuler un certain nombre d'observations, peut-être même de critiques, qui sait, n'est-ce pas Jean-Joseph? Or, Jean ne voulait pas de ça. Il ne voulait pas de ça parce que, comme il disait, on peut faire la guerre, mais on ne peut pas la raconter. On ne peut pas, car il travaillait énormément, il faisait le travail de toute une équipe, un travail technique, politique, éditorial, il travaillait sans arrêt. Il n'avait pas le temps de discuter, il n'avait même pas le temps d'avoir un conseil d'administration, une assemblée générale légale. Alors, on a tous trouvé ça très bien. Toi, t'en foutais, hein, et nous autres, on s'en foutait encore.
Je
ne
trouve pas ça très bien, mais...
Non.
Avec lui, ça allait.
Évidemment, mais on y vient. Attention, tu vas tomber. Alors, bon, ça marchait très très bien comme ça. Et puis alors, vous êtes bien conscient, pas une réunion, pas une convocation depuis 1987 d'une assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, ou même d'un conseil d'administration. Rien. Rien. C'était là. C'était virtuel. Puis c'était, finalement, des amis. Alors, parmi les six, il y en avait deux qui sont restés un peu dans le coup. Parce que ils étaient, ça les intéressait. Et il vouait à Jean Ferret une immense admiration, un dévouement total, au point de ne pas tenir, prendre au sérieux leur rôle de membre du conseil d'administration ou même de participant à une assemblée générale. Eux aussi s'en foutaient. Je parle de Didier Roy et Philippe Varlet. Alors, ils sont restés dans la maison. Ils sont restés en rendant des services. Ils ont été magnifiquement dévoués. Et là, je peux, rétrospectivement, quant au passé, leur rendre hommage. Et tout en étant encore dans la vie active. Parce qu'ils n'étaient pas encore vieux. Alors, ces deux-là sont restés, et puis les autres, comme Jean-Joseph, avaient d'autres chats à fouetter, et puis ils n'avaient aucune envie d'être un peu des potiches. C'est bien ça? Alors, nous arrivons donc à un moment où Jean commençait à faiblir. Jean, on pourrait dire qu'il a voulu mourir debout. Alors, il y a deux individus, deux patrons d'émission, qui tout d'un coup se sont dit, mais attention, qu'est-ce qui va se passer? Jean n'est pas éternel. Et ces deux emmerdeurs, dont j'ai la joie de saluer l'un d'entre eux, que vous connaissez tous, Monsieur Pichon, Et puis un autre, M. Reichmann, ont commencé à poser des questions. Et puis ça n'a pas été bien vu. Mais en même temps, ça a mis la puce à l'oreille d'un certain nombre de gens qui se sont dit, ben, puisqu'il faut mettre les choses en ordre, eh ben, nous allons le faire à notre profit. Et profitant de la faiblesse de Jean, profitant du flou qu'il y avait, profitant de leur manque d'honneur, en rendant des petits services, Henri de Lescun s'est introduit dans la maison et le petite camarilla féminine qui servait Jean et dont Jean se servait s'est mise à sympathiser avec Lescun. Parce que c'est fort et beau, parce que c'est un énarque polytechnicien de plus d'1m80, ce qui est évidemment grave. C'est très grave. Mais il avait certains abattages. Alors, il a réussi à entrer dans ce petit cercle qui entourait Jean. Et ils ont créé un conseil d'administration bidon. Il y avait un conseil d'administration virtuel avant, mais on a créé un conseil d'administration bidon qui n'avait rien à voir, qui n'était absolument pas légal, puisqu'il aurait fallu que Jean-Joseph Richard ou d'autres, qui étaient les membres fondateurs, se réunissent en Assemblée Générale, comme ça va être le cas le 10 juillet, grâce à l'action que nous avons... Enfin, comme ça pourrait être le cas le 10 juillet, grâce à l'action que nous avons ensuite menée auprès des tribunaux pour qu'il y ait une véritable assemblée générale avec des membres fondateurs actifs nommant un conseil d'administration légitime, légal. Alors, mais ils n'ont pas fait ça. Alors pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas fait? Ben parce que c'était Jean quand même, tout affaibli qu'il fût, qui continuait à être le patron. Et il n'a pas du tout, à mon avis, poussé à ce qu'on fasse les choses dans l'ordre. C'était un finaud extraordinaire. Il a donné satisfaction à ceux qui voulaient qu'on arrangeasse les choses, qu'on les rendât plus légales. Mais c'était du bidon. Mais ceux qui faisaient du bidon se sont dit, ben on va en profiter. Alors, je vais vous donner une date. Le 26 juillet, quelques semaines avant la mort de Jean, qui a eu lieu le 10 octobre de l'année passée, Jean m'a demandé de venir le voir. Et puis il m'a signé un contrat. Ce n'est pas des propos de « je vous fais confiance », dont il nous a tous fait confiance, bien entendu, il nous les a tous. Mais c'est noir sur blanc un contrat que j'ai, me confiant ses mémoires qu'il n'avait pas écrites, mais donc la garde de sa mémoire. Et il m'a dit, il faut qu'on se voie, mais je te signe ça. Et je te demande surtout de ne pas dire à Paola que nous nous sommes vus. Car il avait bien pris la précaution que je l'appelle avant de monter chez lui pour que Paola ne sache pas que je sois monté et que je sois venu, en sonnant en bas et elle-même répondant. Alors, voilà, ce sont des faits. Hein. Alors, donc, je suis reparti un peu ému du reste, et parce que j'ai eu l'impression que c'est la dernière fois que je voyais mon vieil ami, un ami de plus de un demi-siècle, avec qui je m'étais souvent brouillé, mais avec qui je m'étais toujours réconcilié avec une encore plus grande amitié, puisqu'on se connaissait mieux, on connaissait mieux nos défauts. Et donc rien de tel que de connaître les défauts d'un ami pour l'aimer davantage. Alors, quand Jean est mort, j'ai reçu l'avis de son notaire, m'instituant avec Roger Ferret, son meilleur parent, son cousin, mais Germain, la qualité d'exécuteur testamentaire. Alors on dit, oui, mais il avait fait ça il y a longtemps. Oui, ça datait de quelques années, mais il n'avait pas changé d'avis, puisqu'il m'avait signé le 26 juillet, quelques semaines avant sa mort, la confirmation qu'il comptait sur moi. Alors, sur quoi comptait-il ? Ben moi, je vais vous dire, je vais vous renvoyer la balle. Hein. Je compte sur vous. Nous sommes avec la création par Jean-Gilles de cette association, Arcol. Nous sommes les héritiers de Jean Ferret. Nous sommes les héritiers légitimes de Jean Ferret, puisque notre ami, j'allais dire notre cousin, Roger Ferret, marche à fond avec nous. Car lui, dès qu'il a vu certains personnages, a compris. Il n'y a pas besoin de lui faire de topo. Alors, que se passe-t-il maintenant? On a dit, il faut le foutre en l'air, il faut le chasser, etc. Mais soit il fallait le faire comme on le fait en Corse, mais moi je suis catholique pratiquant, à froid, je ne l'aurais pas fait. Et soit, oui, mais enfin, on ne l'a pas fait, et puis personne ne voulait non plus y aller, répondre à la violence par la violence. Personne n'a voulu le faire, n'est-ce pas? Alors, il restait des tribunaux de la République. Ou alors, on s'en foutait, mais je ne pouvais pas m'en foutre. Alors, on a obtenu, grâce à ce monsieur, à qui je dois rendre encore une fois hommage, car grâce à lui, même si notre association s'est jointe à sa demande d'administration provisoire pour rétablir la légalité dans cette association, grâce à Jean-Joseph Richard, qui lui avait qualité à le demander, et lui est le seul à l'avoir fait, donc c'est un homme courageux, et surtout aussi un homme qui a du discernement. Tout en n'ayant pas suivi l'affaire depuis longtemps, il a tout de suite pigé ce qui était vrai et ce qu'il fallait faire. Jean-Joseph Richard, tu as été formidable, quelle que soit l'issue.
Toi aussi, Jean.
Mais moi, j'avais pas le choix. Et mais toi, tu pouvais très bien dire, vous m'emmerdez tous, vous venez me chercher au moment où ça va pas, alors que... Extraordinaire. Alors, j'ai pas eu besoin de te faire topo. Tu écoutais un peu la radio. Tu as jugé tout de suite. Alors, le discernement. Parce qu'effectivement, le discernement, il n'est pas tellement courant. Et ce discernement, beaucoup d'auditeurs actuellement ne l'ont pas forcément. Mais c'est comme ça. C'est la vie. Oui, bien entendu, et quelques autres. Ça, Jean-Gilles a là des chiffres qui sont impressionnants. Mais Non, je ne pouvais pas m'empêcher de dire en quoi nous pouvions être reconnaissants et en quoi Roger Ferret et moi, exécuteur testamentaire de Jean Ferret, nous ne tarirons jamais d'éloges à ton égard. Ce dont tu n'as rien à foutre, du reste, je le sais bien.
Oui.
C'est pas les compliments, c'est un hommage. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? On a donc... Alors nous avons été déboutés, parce que nous n'avions aucune qualité juridique, mais moralement, nous nous devions, puisque nous étions une instance, non pas légale, mais légitime, à intervenir. Toi, tu étais une instance légale. Donc, l'ensemble était réuni. Tu n'as pas été débouté, toi, individu, parce que tu étais de fondation. Et tu as obtenu de cette vice-présidente du tribunal de grande instance de Paris, la République, parfois, fait bien les choses. On va voir la suite maintenant. Tu as obtenu la nomination d'une administratrice provisoire. Parce que tout ce qui s'était passé jusqu'alors était bidon. Et que pas plus l'un que l'autre n'était membre d'un conseil d'administration. C'est extraordinaire. Alors, je crois que c'est une affaire unique au monde. Même le CSA a laissé faire. Même les instances officielles ont laissé faire. Parce que ça fonctionnait bien et que cette radio s'imposait par sa qualité et qu'elle était irremplaçable. Ce qui fait que le coucou en profite. Et il en profite pour le moment. Alors, nous allons maintenant avoir des nouvelles dans les jours qui viennent, et là, on ne va pas anticiper, si vous voulez, sur ce qui va se passer, ce que éventuellement nous pourrons faire, puisqu'il y aura en principe prévu une réunion des 5 survivants comme membres fondateurs, parce que le CDRS, c'est 5 personnes, c'est pas 6. Car tous les membres adhérents, je ne dirais pas les cochons de payants, mais ceux qui ont eu l'honneur, qui ont choisi de payer, car là aussi, les auditeurs étaient libres. Ils étaient libres de payer ou de ne pas payer, d'adhérer ou pas. Eh bien, tous ceux qui ont adhéré, qui ont payé, et qui juridiquement, juridiquement sont appelés par les statuts du CDRS à assister sans voter aux assemblées générales, n'y assisteront pas pour la bonne raison que aucun conseil d'administration n'a accepté la moindre adhésion puisqu'il n'y a pas eu de conseil d'administration. Nous sommes dans une situation extraordinairement... C'est ubuesque, c'est prodigieux. Alors, c'est kafkaïen. Ça peut devenir kafkaïen. Je vous arrête tout de suite. Je me refuse à anticiper sur l'avenir.
Laisse monsieur peut-être poser sa question.
Voilà. Oui, mais sa question porte sur l'avenir. Tu peux répondre, toi, si tu veux.
Moi, je ne m'intéresse qu'à l'avenir.
Moi, je suis incapable de répondre. Parce que ce qui est important, et c'est ce que va dire Olivier, excusez-moi, mais ce qui est important, c'est l'esprit de la radio. Car sans l'esprit de la radio, il n'y a plus de radio courtoisie, tôt ou tard. Et l'esprit de la radio, c'est nous. L'esprit de la radio, c'est Arcole. Et ce n'est plus une radio qui se dit radio courtoisie, par antiphrase. Et ce qui compte, donc, c'est ce que nous allons faire comme héritier de Jean Ferret. Comme Jean Ferret a créé, avec le CDARS, une radio grâce à l'exclusion dont nous avons été l'objet de la part de Bernadette d'Angevilliers. Et là, si dans cette hypothèse que vous avez soulevée, c'était ce qui allait se passer maintenant avec nous, dans le cas où effectivement nous exclus, nous relèverions le défi par ce que Jean-Gilles va nous expliquer tout, à nouveau tout à l'heure, eh bien, nous avons là un merveilleux précédent et de grands encouragements dans cette hypothèse-là qui n'est qu'une hypothèse.
Oui, pour compléter ce qui vous a été répondu, il y avait deux questions. L'injustice. Alors, l'injustice sera, à mon avis, traitée par d'autres plaintes. Je crois qu'il faut bien distinguer l'opération qui est en cours et qui a été mise en œuvre par Jean-Joseph Richard. Et celle-là ne résoudra pas l'immense injustice qui a été faite à certains. Mais des plaintes sont en cours sur ce plan de la justice pure qui peuvent aboutir, mais c'est là chez le juge d'instruction. Alors, ça c'est pour l'injustice. Eh oui. Voilà. Oui, alors, je ne veux pas.
Bah,
elle est arrivée actuellement chez le juge d'instruction, à la suite, parce que j'ai porté plainte, si vous voulez, pour tous les préjudices qui m'ont été causés et qui peuvent faire jurisprudence pour d'autres. Mais bon, ça, c'est la justice. Mais il y a autre chose. Par rapport à l'esprit, justement, beaucoup de gens que je rencontrais et... J'ai passé une heure il y a deux jours avec Jean Descartes. Nous étions à la Légion d'honneur et il me parlait de la mort de l'esprit de Radio Courtoisie qui se constatait chaque jour à Radio Courtoisie. Et il y avait là d'autres patrons d'émissions, il y avait d'autres patrons d'émissions avec qui je restais en très bon terme, mais qui me disaient « Je vous en supplie, ne tuez pas la radio ». Et je leur répondais ceci « Mais je ne tue pas la radio, j'en ai été chassé ». Et comme mes amis ici présents, le seul qui tue la radio, mais c'est son propre patron, aidé de quelques-uns, il faut bien le dire.
Excuse-moi, tu dis que tu en as été chassé, mais pas du tout. Tu t'en es chassé. Mais toi aussi, en protestant courageusement le premier comme tu l'as fait, tu étais décidé à sacrifier le grand plaisir de faire une émission.
C'est vrai que c'est un immense plaisir.
Tu étais prêt à le sacrifier pour l'honneur et par fidélité à la radio. Tu n'en as pas été chassé. Pas plus que lui.
Alors, on pourrait passer la parole à notre ami.
Hey!